Pour les linguistes, c'est considéré comme une seule et même langue. C'est-à-dire, c'est exactement la même grammaire, la même structure. Par contre, au niveau du vocabulaire, il y a quelques petites différences, mais pas au niveau du vocabulaire de la conversation courante. Ça fait donc toutes les raisons du monde pour considérer que c'est la même langue, mais l'une est aujourd'hui associée à une culture qui est religieusement marquée comme hindoue. Alors, hindou et hindi, c'est pas pareil. Aujourd'hui, ça l'était au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, hindi, c'est la langue. Hindou, c'est la religion. Les fondamentalistes qui sont actuellement au pouvoir s'appellent l'Hindutva, le parti hindou, ou de l'hindouisme, de l'hindouité, si vous voulez. Ça, c'est pour le hindi. D'un autre côté, l'ourdou, c'est de plus en plus associé à une culture religieuse différente qui a l'islam pour religion. Donc voilà, c'est assez récent. Il y a deux siècles, c'était absolument pas le cas. Il y avait des écrivains de culture musulmane qui écrivaient en hindi, et il y avait aussi des écrivains de culture religieuse hindoue qui écrivaient en ourdou. Il y a une troisième langue qui est proche de tout ça. J'en parlerai pas, mais il y aura bientôt une fiche dessus. C'est le panjabi. Alors, linguistiquement, je suis désolée, mais elle n'est pas prête. Mais bientôt. Par contre, linguistiquement, on est fondé à considérer que c'est une langue différente, légèrement différente. Elle a un bagage de préposition, postposition. Je vous expliquerai tout à l'heure la différence, qui n'est pas tout à fait le même. Elle a des formes nominales un peu différentes et des formes verbales également un peu différentes. Il y a une relative intercompréhension entre les deux, Panjabi et Hindi, ou bien Panjabi et Urdu, alors qu'entre Hindi et Urdu, il y a intercompréhension totale. Et pour vous donner un exemple, le cinéma qui est connu en France sous le nom de Bollywood, cinéma commercial de Bombay, il se parle, si je peux dire, dans une langue qui est vraiment entre les deux. Certains l'appellent hindoustani, mais c'est pas plus du hindi que de l'ourdou. Et ce cinéma, il est souvent accompagné de chants qui, là, sont typiquement des chants ourdous, des ghazals, ceux qui connaissent un petit peu la culture musicale locale. Voilà, donc voilà pour mes raisons de présenter les deux langues en une, parce que je vais plutôt vous parler de ses caractéristiques, de d'où elle vient, etc. Le premier mot que vous avez à droite, c'est l'écriture en caractère ourdou, du mot ourdou, et à gauche, au-dessus du mot hindi, vous avez l'écriture en caractère hindi, du mot hindi. Donc, vous voyez, les écritures, elles, n'ont aucun rapport. Toutes les deux sont pourtant des langues indo-ariennes. Je vais enfoncer beaucoup de portes ouvertes, hein, vous me pardonnerez, ceux qui savent, mais je pense qu'il y en a qui n'ont pas tellement d'éléments, d'informations sur cette région du monde au point de vue linguistique. Indo-arien, ça veut dire les langues, en simplifiant beaucoup, qui sont les petites filles du sanskrit. Le sanskrit étant, comme le latin et comme le grec, pour l'Europe, des langues indo-européennes. Donc, vous voyez, indo-arien, c'est une sous-famille de l'indo-européen. Et l'ourdou, malgré son écriture qui n'est pas du tout indo-européenne, est une langue indo-arienne. Ceci dit, les emprunts du vocabulaire ourdou se sont faits massivement au persan et via le persan à l'arabe. Pourquoi le persan? Parce que l'Inde, mais l'Inde indiphone aussi bien que ourdoufone, a été dominée pendant deux ou trois siècles, juste avant la colonisation britannique, par des Turcs, mais dont la langue de culture était le persan. Et il y a eu plusieurs dynasties, les plus connues parce qu'ils ont construit le Taj Mahal, c'est les Lodi. Donc à cause de ça, même en hindi, il y a énormément de mots persans et via le persan, énormément de mots arabes. Voilà. Finalement, je me dis, si vous avez des questions à poser à mesure, ben, c'est peut-être plus simple. Il n'y en a pas jusque-là. N'hésitez pas. Indo-arien, si je dis des mots, par exemple, que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. OK ? Donc, je passe à la première image qui vous montre un peu l'Asie du Sud. Asie du Sud ou méridionale, ça veut dire quelque chose en anglais et puis en allemand, éventuellement en français, on parle plutôt du sous-continent indien. Et qu'est-ce que ça ajoute à l'Inde, dont vous voyez les frontières internes en noir ? Ça y ajoute le Pakistan, qui est à gauche, le Népal, qui est au nord, et puis le Bangladesh, qui est la petite enclave. Où est-ce qu'on pointe là ? Vous voyez le truc, non, moi je vois rien. Bref, il y a un petit carré à droite qui est enclos de frontières noires et c'est le Bangladesh, où on parle bengali, qui est une langue indo-arienne aussi. Alors, dans cette carte, le vert clair, c'est tout l'indo-arien. Ça n'est pas que le hindi, mais le hindi se met là-dedans et occupe la plus grande partie du territoire. Et vous voyez qu'au Pakistan, donc le pays sur votre gauche, il est vert clair largement, c'est tout l'ourdou. Ce qui est vert foncé, c'est des langues iraniennes, également indo-européennes, mais pas indo-ariennes, et par exemple le pashto, l'Iran, etc., parce que c'est aussi des langues parlées au Pakistan. Mais vous voyez, il n'y a pas que ça en Inde. Tout le bloc sud, ceux qui sont des réguliers ont déjà entendu parler du tamoul, et vu que c'est une langue qui génétiquement n'a aucune affinité avec l'indo-arienne, c'est-à-dire qu'elle est d'une famille différente, et probablement elle est le représentant de sa famille, disons qu'on n'a pas réussi à la rattacher de façon convaincante jusqu'à présent à autre chose. Et puis il y a la bordure rouge, qui est ce qu'on appelle les langues tibéto-birmanes, un mot valise qui ne veut pas trop dire grand-chose, parce qu'entre le birman et le tibétain, mais bon, c'est une langue asiatique qui ressemble un peu plus au chinois, il n'y a pas d'article, parfois il y a des tons, mais pas toujours, elles sont extrêmement différentes, c'est les langues les plus nombreuses, c'est-à-dire qu'il y a davantage de langues tibéto-birmanes qu'il n'y a de langues indo-ariennes et de langues dravidiennes. Par contre, c'est les moins parlées, ce qui veut dire que chacune des langues en rouge a un tout petit nombre de locuteurs. Et il reste les inconnues du bataillon, celles dont on ne parle jamais, parce qu'aucune d'entre elles n'était écrite jusqu'à il y a très peu, c'est les langues en violet. Elles correspondent à des communautés tribales. Je garde le mot parce que la constitution indienne en a fait une catégorie. Comme il y a des castes en Inde, il y a des tribus. Et c'est un héritage de la domination britannique, parce qu'aujourd'hui, les tribus ne vivent pas comme des sauvages enclavés dans leurs montagnes, ne sont plus nomades, sauf très très peu d'exceptions. Ces langues-là, elles, en violet, donc vous voyez, c'est des poches, des petits trous dans la bande centrale du sous-continent et un petit peu au nord-est, elles ont été rattachées à une famille extérieure qui est la famille austrique ou austro-asiatique. C'est des langues qui ressemblent par exemple plus au Thaï, au Lao, etc., etc., tout en ayant leur spécificité indienne. Alors, ça, c'est une carte qui montre qu'il y a vraiment quatre grandes familles de langues parlées en Inde qui n'ont aucun rapport entre elles sur le plan de la génétique des familles, si vous voulez. J'aurais pu faire la contre-carte qui n'aurait pas eu d'intérêt géographique parce que tout aurait été pareil. Et c'est une théorie qui date des années 70-80 de considérer que malgré cette diversité énorme des origines linguistiques de chaque famille de langues, la cohabitation sur 40 siècles, et donc le bilinguisme que ça a entraîné, a fini par contaminer, si je peux dire, un peu toutes les familles de langues. Et donc on trouve des points de ressemblance extraordinairement frappants au niveau fondamentaux que sont la phonologie, la morphologie, et la syntaxe, moins le vocabulaire évidemment, sauf que au niveau du vocabulaire, le facteur unifiant, ça a été le sanskrit à cause de la religion hindoue. Et je vous donne un seul exemple de chaque phénomène unifiant, c'est-à-dire qui contribue à faire que maintenant, on n'a plus une famille de langues d'ordre génétique, on n'a plus quatre familles, excusez-moi, en suivant les classifications génétiques, mais on aurait une seule nouvelle famille. C'est les Soviétiques qui ont lancé cette idée forte de considérer la famille indienne comme une seule famille, tellement ça a changé depuis les parents ancestraux. Donc les liens du voisinage l'ont emporté de très loin sur les liens du sang, si l'on peut dire. L'exemple phonologique, c'est les consonnes rétroflexes. Là encore, ceux qui ont écouté le tamoul, vous savez ce que c'est. C'est une consonne, nous on a des dentales, par exemple, on a te, de en français. En indien, je dis indien parce que là, comme je vous disais, ça s'est répandu sur toutes les langues de toutes les familles, ce phénomène qui consiste à rétroflexer ou cérébraliser la consonne en question. C'est-à-dire qu'au lieu de prononcer avec la langue directe contre les dents ou les alvéoles, vous recourbez la langue en cuillère et ça donne ta, ta, da. Vous entendez la différence? Voilà, des fois ça ne s'entend pas. Alors au niveau de l'enseignement, de l'acquisition du français, je veux dire, le petit problème que ça donne, ça ne devrait pas en donner, puisqu'il y a les deux séries qui s'opposent. Dans les langues indiennes, il y a d'un côté les dentales et d'un autre côté les rétroflexes, y compris pour la latérale. Il y a ra, mais il y a ra, ra. Rétroflexe. Donc, il y a tout. Mais la tendance en indien, au sud et au nord, c'est de réaliser les dentales de l'anglais ou des langues européennes comme des rétroflexes. Donc voilà, souvent, les Indiens vont avoir tendance, tous confondus, à prononcer, à rétroflexer. Da, da. Au niveau, je vous parlais de phénomène pan-indien, donc qui avait induit cette idée de supprimer l'histoire des quatre familles, en plus génétiquement extrêmement différentes. Pour vous donner une idée, il y a des langues sans genre, il y a des articles nulle part, hein, mais il y a des langues à trois genres, des langues sans genre et des langues à deux genres. Et chacune des familles, j'entre pas là-dedans, a ses spécificités. On s'attend évidemment que les langues en rouge, tibéto-birmane, aient des classificateurs, et c'est le cas assez souvent. Mais elles ont refilé parfois à d'autres langues contiguës sur le plan géographique. Au niveau de l'ordre des mots, le phénomène pan-indien, qui aujourd'hui est un des problèmes les plus, des exotismes, disons, les plus difficiles à maîtriser dans un tout premier temps, c'est l'ordre des mots. Le verbe est toujours final. Alors on dit c'est comme en allemand. C'est pas du tout comme en allemand. Il est réellement toujours final, en phrase simple, non marquée. Quand je dis non marquée, ça veut dire où il n'y a pas de contrainte énonciative particulière. Sinon, toutes les langues du monde, de quelque poil qu'elles soient, c'est clair que quand on thématise quelque chose, c'est-à-dire que quand on met quelque chose comme le pivot, la discursive, ce à propos de quoi on va raconter autre chose, il est en première position dans toutes les langues, quel que soit leur ordre de base. Donc quand je dis l'ordre des langues indiennes, les quatre familles, c'est verbe final, ça veut bien sûr dire quand il n'y a pas d'autres paramètres énonciatifs qui interfèrent. Et pareil, quand on veut focaliser, c'est lui qui m'a pris, il y aura des ordres différents. Okay, bon, voilà, ça c'est deux phénomènes qui se sont répandus, qui sont devenus maintenant des caractéristiques de ces langues. Il y en a 12, je ne vais pas vous les énumérer, qui sont tous également cruciaux quand on pense langue comme système. Je sais qu'on peut avoir une autre idée de qu'est-ce que c'est qu'une langue, mais nous, les linguistes, les grammairiens, on en reste assez là. Une langue, c'est d'abord avant tout un système. Donc voilà, il y a ça au niveau phonologique, et puis au niveau de l'ordre des mots, et puis sachez qu'il y en a une bonne douzaine d'autres facteurs qui sont devenus communs, qui ne l'étaient pas à l'origine, et qui sont communs à l'heure. Alors après, on passe à l'Inde, intramuros, si je peux dire, c'est-à-dire la partie des premières frontières noires. Et ça donne ça. Ça, c'est une vieille carte avant l'augmentation des États. La constitution indienne prévoit des États, chacun associé, je simplifie très, très grossièrement, à une langue. Alors, ça, c'est une carte qui a pris en compte des revendications qui ont été faites juste après l'indépendance. C'était pas tout à fait comme ça en 1947, ni en 50, et il n'y avait pas ces fameux états-langues. Après, il y a eu des protestations, puis en Inde, on n'hésite pas à aller jusqu'au bout des choses, donc ça fait des centaines de milliers de morts, des protestations pour les revendications linguistiques. Une minorité, une grosse minorité se trouvant dans un état où c'est la langue officielle est autre chose, vous imaginez facilement les drames quotidiens que ça peut entraîner, incapacité par exemple d'interagir avec la police, avec tout ce qui est de plan à l'intérieur de l'état, tout ce qui est l'administration, scolarité également, puisqu'on scolarise dans la langue dominante, etc., etc. C'est pour vous dire qu'il y a eu des raisons à ces revendications qu'on appelle les mouvements de linguistique, language movements, et à leur violence. Il n'y en a aucun qui n'ait pas été sanglant. Le premier qui a gagné n'a pas été sanglant, mais le leader de ce mouvement a dû jeûner à mort. C'est un truc très trendy en Inde, encore maintenant, dans la mouvance de Gandhi. Vous savez que c'était son moyen d'action le plus efficace, finalement. Et donc, le statut de la première langue qui a acquis son indépendance, son autonomie et son état après l'indépendance, c'est-à-dire qu'en 1950, elle ne l'avait pas, en 1956, elle l'avait, c'est le Telugu, et son, le leader de ce mouvement, il a jeûné à mort, et c'est comme ça que le gouvernement central a craqué. Donc, voilà la carte de 1991, et là où ça parle hindi, c'est Uttar Pradesh, comme c'est écrit dans nos caractères, vous vous y retrouvez, Uttar Pradesh le plus au nord, Rajasthan en rouge vers le Pakistan, au-dessous Madhya Pradesh en orange, Bihar en rouge à gauche et Himachal Pradesh tout en haut au sud du Cachemire. Au Cachemire, bien sûr qu'on parle cachemiri, mais on parle surtout ourdou. Et ourdou, c'est la même chose que hindi. Donc vous voyez, ça fait un sacré bout. Plus des poches d'autres États où le hindi représente une minorité importante. Et au total, on considère que les locuteurs du hindi sont 42% de la population indienne. La population indienne, c'est 1 milliard 300 000. Donc, vous voyez, on n'est plus du tout dans les nombres de ce matin. Ça pourrait faire 500 millions. À part ça, on n'est pas en Afrique, mais malgré tout, alors l'Inde, c'est le contraire sur le plan des statistiques, il y a pléthore de statistiques. Chaque organisme central, c'est-à-dire fédéral ou non, a son système de stats. Et donc, on aboutit, selon les critères utilisés pour cerner la langue maternelle, à des chiffres souvent assez différents. Il y a un autre phénomène qui s'ajoute, c'est ce qu'on appelle les loyautés linguistiques. Vous voyez, selon les opportunités, c'est jamais gratuit, bien sûr, un quidam aura envie de déclarer comme langue maternelle soit la langue qu'il parle à l'extérieur, soit la langue qu'il parle à la maison, soit encore autre chose. Parce que, détail que j'aurais dû vous signaler, mais vous l'avez sûrement entendu avec le tamoul, c'est rare d'être monolingue en Inde. On parle la plupart du temps au moins 2-3 langues. Pas toujours proches. Hein. Et on n'est pas scolarisé très très souvent dans sa langue maternelle, mais dans une langue qui est proche de sa langue maternelle. Sauf bien sûr les pauvres tribaux, les langues violettes, vous vous rappelez. Alors voilà donc une carte des années 90 et voilà son équivalent en 2015. J'ai mis l'alphabet pour vous amuser, quoi. Vous voyez qu'il y a pas mal plus d'États, qu'en particulier le gros État Uttar Pradesh qui figure en bleu ici, avec son alphabet hindi, il s'est fragmenté en 3. Un État au nord, un État à l'est. Et aussi, le Bihar qui est en vert, il a bifurqué, il a donné le Jharkhand qui est en marron là-dessous. Donc, juste pour vous dire, ça change tout le temps. Et juste pour vous dire, les scripts sont très différents, même à l'intérieur des langues indo-ariennes. Parce que, bon, l'ourdou, vous reconnaissez, c'est l'arabe. Vous le voyez dans la partie occidentale, c'est-à-dire à gauche de la carte. Mais l'étang en rose qui est sur la mer, il est tout à fait indo-arien. Et il a quand même un drôle de script, hein, c'est le Gujarati. De même, symétrique de l'autre côté, à droite, dans la baie du Bengale, en rose aussi, l'Oria, l'état d'Orissa, qui parle une langue Oria tout à fait indo-arienne, un petit peu comme le Bengali. Ben aussi, elle a un script qui ressemble pas mal plus au script des langues du Sud. C'est bon pour la géographie. Ok, maintenant l'utilisation de ces langues. Alors, la capitale de l'Inde, c'est Delhi, et c'est une capitale, j'aurais dû vous la montrer sur la carte, sauf que je ne peux pas pointer, mais elle est, y a un petit pool d'états, dont un jaune, un rose, un bleu, et bien Delhi est à la croisée de tout ça, au sud du petit état en jaune. Ouais, donc c'est plutôt au nord-ouest, nord-nord-ouest de l'Inde. C'est la capitale administrative. Et c'est une ville trilingue, parce que c'est une ville où il y a une grosse minorité d'ourdoufones, donc qui parlent ourdou. C'est une ville où il y a une égale minorité de Punjabi. Ça, c'est d'une part la proximité, c'est mitoyen avec la région Punjab, et d'un autre côté, à la partition, tous les Punjabis de l'actuel Pakistan ont reflué en masse sur Delhi. Et donc, il y a une énorme diaspora ex-pakistanaise, bon, ça n'existait pas, mais enfin du Punjab oriental, qui est maintenant établi depuis 2 générations à Delhi. Donc, on parle ces 3 langues, plus... comme c'est la capitale fédérale, l'anglais. Et vous avez, vous voyez, le deuxième mot, c'est le nom de la station de métro, Hazrat Nizamuddin, et il est d'abord écrit en nagari, en hindi, dans le même ordre des mots. Vous voyez, la première ligne, c'est Hazrat Nizamuddin, écrit en nagari, qui est l'alphabet du hindi, du sanskrit, du marathi, du népali, enfin de pas mal de langues. En troisième lieu, à gauche, vous avez la même chose écrite en ourdou, c'est-à-dire en caractère arabe, dans un ordre différent, parce que, comme l'arabe, l'ourdou s'écrit de droite à gauche. Et ensuite, dernier mot, c'est le Punjabi. Vous êtes contente? La dame qui voulait... Ben, c'est un peu frustrant, mais vous avez 2 mots. Vous avez 2 mots. Et l'alphabet... Quand on est bien à l'aise dans l'alphabet du hindi, on se retrouve... C'est quand même pas identique. Hein. Il y a des lettres qui se ressemblent même pas du tout. Mais malgré tout, c'est pas très, très différent. Avec l'ourdou, bien sûr, on se retrouve pas du tout. Voilà. Et donc, c'est d'abord hindi, ensuite anglais, les langues de Delhi, les langues des panneaux d'indication. Après... j'ai quelques images pour montrer des lieux spécifiques où c'est plus trilingue et encore moins quadrilingue. C'est par exemple les temples, parce que c'est le lieu où les différences de vocabulaire vont jouer au maximum. Et tout ce qui est lié à la religion, comme tout ce qui est lié à la nomenclature administrative, c'est des vocabulaires spécifiques. Alors, à la religion, ça, c'est un temple shivaï, et il n'y a ni anglais, ni évidemment aucune autre langue, hein, parce que c'est lié à une religion qui, à tort ou à raison, mais au fil des siècles, a fini par s'associer à la langue hindi dans l'Inde indiphone. Bien entendu, le cas du Bengale est différent. Et ça veut dire temple établi par les Pandavas. Alors, les Pandavas, c'est des gens qui habitaient dans le coin il y a 25 siècles. Enfin, ce temple, c'est eux qui l'ont fait. Et la première ligne, c'est son nom, le temple Batukaya. Hommage à ce temple. Après, l'inverse, quand on est dans une mosquée, on trouve généralement pas un mot d'anglais et pas un mot, sauf à la, aux choses qui sont très touristiques, bien sûr. Ça, c'est un darga qui est en plein Delhi, qui était tout à fait à côté de la station de métro qu'on a vue tout à l'heure en quadrilingue. Voilà le sanctuaire, un des sanctuaires les plus révérés. Et bien sûr, son nom est écrit en caractère arabe en haut. Ensuite, il y a à l'extérieur une affiche, elle n'est pas nette du tout, je n'ai pas réussi à agrandir l'image, qui est en trilingue. C'est un apax, hein, et c'est une affiche qui n'est pas tellement correcte politiquement, sauf que, comme vous savez, dans tous les sanctuaires musulmans et les mosquées, il y a un espace où les femmes ne rentrent pas. Et ça, c'est le mot qui indique que « ladies are not allowed ». Here. Et ce qui m'intéressait, mais vous allez me croire sur parole, c'est qu'en hindi, c'est exactement les mêmes mots qu'en ourdou. C'est même sur, parce que le vocabulaire n'est pas religieux. Là, c'est juste interdire aux femmes d'aller plus loin. Et du coup, on retrouve ortin. Bon, il y a plusieurs mots pour dire femme. Il y a un mot qui est plus hindi sanskrit. Pareil en ourdou, mais les mots qui sont employés sur cette affiche, c'est des mots qui sont, j'aurais dû mettre un titre, j'ai cru le faire et je ne l'ai pas fait, où on voit que dans les deux langues, c'est exactement les mêmes mots, seul l'alphabet diffère. Ok, bon, ben je passe le reste, ça c'est le culte pour les commémorations politiques, vous auriez vu la même chose, c'est pas très intéressant, c'est que c'est écrit dans chacune des langues selon le pays, c'est Pakistan ou Inde, et puis que pour les ordures c'est pareil pour tout le monde, recycle your washes, ça serait les mêmes mots avec le langage familier, que ce soit de l'ourdou ou du hindi. Et ensuite je vais quand même vous montrer un tout petit peu l'histoire de l'âne. Je dépasse ça. Ça aussi, c'est des trucs de contact. Voilà l'âne, pour rentrer un petit peu dans la langue. J'ai mis la ligne de caractère en nagari, c'est-à-dire l'alphabet utilisé pour écrire le hindi, pour l'unique raison que c'est le même ordre et que l'autre, mettre en ourdou, on est obligé à rebrousser l'ordre pour la glosse ou bien ça correspondait à rien du tout. Alors, je vous lis. Puisque apparemment elle n'est pas tout à fait en ligne, mais elle le sera bientôt, l'histoire. Et par aussi, Mulla Nasruddin Kedharpar Pancha. Le verbe est à la fin, c'est Pancha. Le sujet est au début, et entre les deux, il y a tout. Le verbe s'accorde avec son sujet, le A, c'est pour le masculin. Un voisin, et par aussi. Et vous voyez ici, on a l'impression qu'il y a un article. Il n'y en a pas. C'est le numéral, comme en français d'ailleurs, mais qui est utilisé occasionnellement, pas systématiquement comme en français, pour l'indéfini. J'ai vu des voisins, il n'y aurait pas du tout d'article. Donc, l'ordre des mots, Mulla Nasruddin Kedvar, littéralement, Mulla Nasruddin de porte sur, juste l'inverse du français. Dans ces cas-là, ce n'est pas tellement difficile, on prend en sens contraire et on obtient l'ordre. Un voisin, donc Paruncha, avant dernier mot, arriva, avant dernier mot, par, sur, et porte de, je recule, qu'est de Nasruddin, le mot là. Pas d'autres commentaires à faire. Deuxième phrase, le moula sortit à sa rencontre. Attends, je ne sais pas si c'est une phrase. C'est sorti, ité. Le moula sortit à sa rencontre. Moula, le sujet toujours en première place. Et le verbe, toujours à la fin, qui est niklé. Niklé, ça veut dire sortir, jaillir, tout ce que vous voulez. Mais vous vous rappelez, tout à l'heure, on a vu il arriva avec un A. Les verbes sont archi-réguliers, il y a une seule conjugaison, il y a quatre irrégularités dans tout le système et ça affecte le radical, jamais la désinence. Il parvint, la désinence c'est A. Le moula sortit, mince, c'est E. Comment ça s'explique? C'est que ce E est pour le pluriel. Si on a le temps d'avancer un petit peu dans l'histoire, on verra des mots pluriels, des noms masculins finis en A. Il varie comme les verbes. Le verbe, il finit en A au masculin singulier et au masculin pluriel, il finit en E. Et vous voyez ici, le pluriel ne correspond pas à une pluralisation du sujet, mais au respect. Parce que moula, on ne peut pas le dire, même s'il n'y a pas une particule de respect, qu'il y en a plein en hindi aussi bien qu'en hindou, même en l'absence de cette particule, un terme qui est plus haut que vous dans la hiérarchie, il a droit au pluriel. Évidemment, dans l'interlocution, à la deuxième personne, mais même, vous voyez, dans le récit, à la troisième personne, le verbe est au pluriel. Et c'est super grossier de s'exprimer. Si je dis le prof est arrivé, si je le dis au singulier, c'est vraiment grossier. Donc, c'est aussi des fois des fautes qu'on peut rencontrer, l'utilisation abusive du pluriel pour marquer le respect. Après, je crois que je vais arrêter, sinon je me ferai rappeler à l'ordre, hein. Oui, ça, l'ourdou du Pakistan, vous savez, il est quand même frère jumeau avec l'ourdou de l'Inde. Les deux sont indo-ariens, donc évidemment ça les concerne, mais le tamoul aussi. C'est ça, la particularité de ces traits, c'est qu'ils ont affecté les quatre familles. Et à Sri Lanka, qui fait partie du sous-continent indien, comme dans le Tamil Nadu ou ailleurs. Donc réponse oui. Ouais. Oui, mais je suis prêt, peut-être au fond. Peut-être au fond, on s'entend moins.
Le lien entre religion et langue.
Oh là là.
Vous parliez de l'ourdou et de l'hindi, rattaché aux religions différentes. Est-ce que les frontières sont aussi hermétiques, ou est-ce qu'il arrive peut-être, enfin, je ne sais pas, c'est une question, que l'ourdou, que les gens parlent en ourdou, et bien que ce soit très proche de l'hindi, j'ai bien compris, qu'on puisse trouver des caractères.
On ne vous entend pas derrière.
M'entends ?
Oui, oui.
Est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, de l'ourdou écrit en caractère arabe soit aussi qu'on puisse le retrouver, par exemple, dans des textes hindis, enfin, ou dans des textes de la religion Est-ce que les frontières sont si hermétiques que ça ? C'est juste la question que je voulais poser.
Bah, vous posez...
Une deuxième question, puis comme ça, hein.
Allez-y.
C'est sur le tibétain. Je n'ai pas bien compris à quelle branche il se rattachait. Et si, j'ai bien compris qu'il ne faisait apparemment pas partie de l'indo-arien. Hein, c'est bien
non, ça. Non, vous avez bien compris.
Oui, mais alors, du coup, à quoi il se rattache ? Enfin, est-ce qu'il y a une branche
oui.
majeure à laquelle il est rattaché ?
Oui. Oui, oui. Je vais répondre à la deuxième, c'est plus facile. D'abord, hein, je ne vous laisse pas tomber pour la première. Le tibétain, il se rattache comme membre occidental, extrême, à la vaste famille qui fait un arc de tibéto-birman, c'est-à-dire des langues... j'essaye de revenir à ma carte. Hein. Ouais. Voyez ? Ce qui fait le tour là, c'est qu'il y a les langues naga, les langues cognac, elles sont tellement diverses que c'est très difficile de leur trouver des points communs. Certaines ressemblent plus au chinois, d'autres ressemblent plus au tibétain. En réalité, les spécialistes disent qu'il n'y a pas de points communs. Il n'y a pas de points communs. De points communs, de troncs. Si, c'est cynique. C'est cynique. S'il faut rattacher à une vaste, vaste famille, c'est côté chinois. Voilà pour le tibétain. Mais ça ne s'écrit pas avec des idéogrammes. Hein. L'écriture du tibétain, elle est dérivée de la même chose que le hindi, par exemple. Et cette même chose, vous allez dire, ah ben c'est le sanskrit, sauf que le sanskrit n'a pas une écriture. Il en a plein d'écritures. Aujourd'hui, on s'est habitué à associer le sanskrit avec l'écriture la même que le hindi, c'est-à-dire ça, là, vous voyez, parce que la plupart des textes sont écrits comme ça en Inde du Nord, et que l'Inde du Nord domine politiquement, mais en Inde du Sud, il est écrit en tamoul, le sanskrit. et il a très longtemps été écrit. La conservation de manuscrits importants, c'est plus faite en une variante du Telugu, de l'alphabet ancien du Telugu, qui est aussi une langue dravidienne. Donc vous voyez, ces histoires d'écriture, ça complique toutes les questions. Où est-ce qu'elle est, la carte? Ah ben non, c'était la première. Bon, vous avez... voilà, le hindi. Alors, votre première question, est-ce que la frontière est aussi nette entre langues, mais en même temps, vous avez parlé d'écriture? Alors, c'est deux trucs entièrement différents. Ouais, si vous voulez. La question langue-culture, déjà, quand on parle de... Donc on reste hindi-ourdou, hein, on ne fait pas intervenir d'autres langues. Quand les gens parlent, comme c'est la même chose, bien sûr, il n'y a pas de frontière. Quelqu'un va peut-être utiliser un peu plus de mots arabes et on va se dire, ah tiens, celui-là, culture ourdou. C'est même pas sûr, parce qu'un type qui a une bonne culture hindi, et particulièrement quelqu'un de la génération des vieillards, quoi, de ma génération, va avoir lu sa culture ou hindi d'une époque où il n'y avait pas du tout de différence. C'est-à-dire jusqu'à bien après l'indépendance, le vocabulaire, la richesse des deux cultures était due à leur interfécondité. Une réponse plus historique, j'ai fait une toute petite allusion, mais peut-être pas assez claire, c'était que c'est un phénomène récent d'associer langue et culture, et avec le Punjabi encore plus. Donc il y a un siècle, par exemple, c'était extrêmement fréquent que des gens de culture ourdou écrivent dans l'alphabet hindi. Vous me direz, ça ne répond qu'à la question du script, hein, mais bien sûr, le vocabulaire va avec. Et le vocabulaire était riche des deux lexiques, jusqu'à il y a deux générations, on va dire. Et c'est vrai que ça change à vitesse grand V. Et pour me placer sur un terrain plus facile, parce que l'observation est plus facile, c'est la phonétique. En ourdou, ceux qui ont regardé l'affiche, il y a des sons qui n'existent pas en hindi, qui n'existent plus en hindi. Par exemple, khana, ça veut dire manger. Et khana, vous voyez, c'est plus en arrière, et la fricative, ça veut dire le lieu. Kitab, khana, la bibliothèque. Et ça, c'est un mot ourdou. Parce que pour dire le lieu, en sanskrit, on a alay, himalay, le lieu de him, le froid, la glace. Et donc la bibliothèque, ça sera avec le mot sanskrit pour dire livre, pustak, et alay pour dire lieu. Donc la bibliothèque hindi, pustakalay. La bibliothèque ourdou, kitab, khana. Donc vous voyez, là, c'est dans la terminologie administrative. On a demande à part. Donc, vous voyez, je citais ça, pas pour le vocabulaire, mais pour vous dire que voilà un des quatre sons qui n'existe pas en hindi. Il y a aussi le son ka d'arrière, voilà, qui n'existe pas en hindi. Tous les hindiphones qui ont aujourd'hui 80 ans le réalisent, ceux qui ont une vraie culture. Il y a un siècle, tous les hindiphones réalisaient ka. Personne disait ghazal, le nom de cette forme musicale. Tout le monde disait ghazal. Et pareil pour le mot qui veut dire faux. Maintenant, tout le monde dit galat. C'est un mot arabe. Et personne ne disait galat. Ghalat, on disait. Donc ça change très, très vite. On peut dire ça comme ça, oui, parce que la scolarisation aujourd'hui, elle se fait dans un hindi purifié. Elle s'est toujours fait dans un hindi plus sanskritisé que la norme, mais qui admettait aussi l'ourdou. Là, c'est un hindi très appauvri, quoi. Il est simplifié, quoi. Il n'y a pas de mots compliqués, il y a un peu de sanskrit, mais surtout, le répertoire des sons est amputé de ces quatre-là. Ça, c'est un des signes, si vous voulez, qui fait que la fameuse frontière à laquelle vous faisiez allusion, elle se construit de génération en génération. On la voit de plus en plus. Non, c'est-à-dire que dans les parlers quotidiens, le mot pour faux, c'est un mot très très courant, hein. Tout le monde va le dire. C'est au niveau juste du son. Un gamin qui parle ourdou à la maison, il ne va jamais dire galotte. Mais tout le monde se comprend. Si vous écoutez le cinéma et vous avez l'oreille à ça, vous les entendrez, les « ka » et les « ra ». Mais ça, c'est un tout petit détail. Au niveau... Du moment qu'on a un gouvernement, c'est récent, mais malgré tout déjà, il a été procédé à la réécriture des manuels d'histoire. Vous voyez, pour nier en particulier la théorie dite de l'invasion aryenne. Parce que les historiens, tout poil confondu, européens, indiens, japonais, considèrent que les indo-aryens ne sont pas fils du sol, qui sont arrivés d'un peu plus haut. C'est très controversé, mais enfin, en gros, ça se met quelque part en Asie centrale ou un peu plus à l'ouest. De toutes les manières, ils ont franchi la Khyber Pass, qui est la barrière montagneuse entre Afghanistan et Pakistan. Tout le monde s'accorde là-dessus. Les textes les plus anciens, pour le sanskrit, c'est le Veda. C'est une collection d'hymnes religieux très anciens. Dans la topographie, ou la toponymie, on voit très bien, ça se passe là, ça ne se passe pas en Inde. Donc cette thèse, elle est, on peut dire, consensuelle, hein. Ben, pas pour les fondamentalistes. Donc vous pensez bien que quand on en est à réécrire l'histoire de la communauté de cette façon, la langue va suivre. C'est-à-dire on veut affirmer l'identité propre de la langue hindi, naturellement, contre l'ennemi de toujours, qui est le Pakistan, l'islam, le script ourdou, etc. On finit.
Je suis désolé.
Ok.
Merci beaucoup, Annie. Je vous rappelle que si vous allez sur le site, vous avez évidemment encore plus d'informations sur les langues qui sont présentées et les langues.